Bonjour Zabou Breitman, je suis heureux de vous interviewer car vous êtes pour moi une personne rare et qui compte dans la profession. Vos choix de comédienne et de metteur en scène sont et ont été toujours des plus judicieux. Deux événements m'ont profondément marqué, le film Se souvenir des belles choses, pour lequel vous avez reçu en 2003 le César de la meilleure première œuvre, et au théâtre en 2010-2012, La Compagnie des Spectres. Mais voilà, nous sommes là pour votre dernière pièce que vous venez de mettre en scène, Journal de ma nouvelle oreille, au rond-point avec Isabelle Fruchard, qui est excellente. Alors, en quoi ce projet vous a touché ?
Cette pièce, au départ, était une écriture, un journal qui était voué à faire une fiction radiophonique, voilà. Et je l'ai lu et je me suis dit, je pense qu'en travaillant le texte, on peut certainement, le texte et la structure, parce que je pense que la structure ne marchait pas très bien pour le théâtre, il me semblait qu'on pouvait en faire un objet théâtral. Pour moi, je voyais des images, je n'avais pas que des sons. Et du coup, ça m'a donné très très envie de le mettre en scène. Et de la mettre en scène, puisque je me suis dit que c'était la meilleure idée, c'était qu'elle interprète elle-même son histoire.
Mais en quoi cette histoire vous a touché ?
Parce qu'elle est particulière. Isabelle n'est pas sourde, elle n'est pas totalement entendante, elle est un petit peu entre les deux, elle est dans une approximation. Et tout ce qui est sur la tangente, tout ce qui est dans la fragilité, dans l'à peu près, m'intéresse. Parce que c'est à l'endroit où l'être humain est le plus visible, à la frange du possible et de l'adaptation. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on s'adapte. D'ailleurs, quel que soit le problème ou le non-problème, on s'adapte, on fait en sorte que... On fait en sorte de montrer qu'on est debout. C'était le cas pour vous parler de Se souvenir des belles choses. Les gens qui ont un problème de mémoire très grave font semblant de ne pas avoir de problème du tout. Beaucoup de gens font semblant parce que de ne pas être malade, de ne pas avoir de problème, parce que quand on perd quelque chose de l'être humain, on a l'impression que l'être humain est bancal et on a envie de montrer qu'on est bien debout sur ses deux jambes. Et voilà.
Qu'on est normal.
Voilà, être normal, c'est être vertical, quoi, comment il s'appelle ce Belge merveilleux, donc il fait l'art du rire. Et c'est très juste sur la verticalité, l'être humain est debout et on a besoin de rester debout. Sinon, il y a une terrible angoisse. Par rapport aux autres. Alors, ce qui peut provoquer le rire aussi, hein, puisque dans le journal de ma nouvelle oreille, il y a des choses extrêmement drôles, parce qu'il y a du quiproquo, et ce qu'on appelle évidemment là, pour le coup, du malentendu. Et c'est très amusant parce que ça parle à tout le monde. Ça nous parle à nous, à tout le monde. On est tous imparfaits à un moment donné ou à un autre. Mais j'aime aussi que les gens s'aperçoivent que, et même ceux qui, par exemple, ne veulent pas se faire appareiller, alors qu'en fait, on porte des lunettes quand on ne voit pas bien. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne porte pas d'appareil, à part le fait que ce soit quand même horriblement cher encore. Mais on peut porter des appareils, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Mais le sourd ou la personne un peu sourde est toujours associée au crétin. Quand on regarde la littérature, au crétin et au diable. Et l'aveugle est toujours associé à l'extra-lucide et à Dieu. Et au paradis. C'est très bizarre. L'aveugle voit Dieu à l'intérieur. Et le sourd n'entend pas, ne comprend pas, est plutôt un suppôt de Satan. C'est très très curieux.
Ça va remonter au Moyen-Âge.
Ouais, au moins.
Ou la nuit des temps. Ouais. Mais alors, en fait, ce qui est remarquable dans cette pièce, c'est que on n'est pas du tout dans le pathos, on est vraiment, on est un peu dans la dérision, et c'est ça qui est fort et c'est ça qui fait que ce spectacle est vraiment très agréable.
Oui, il fallait absolument garder, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à enlever tout ce qui pouvait être pathos ou tout ce qui vous pouvait être entre guillemets culpabilisant pour le spectateur. Il faut faire très attention de pas faire le gentil qui a des soucis de handicap et les autres sont tous méchants. Il faut faire toujours très attention à ça et rendre l'humanité à quelqu'un d'imparfait ou d'un handicap, c'est lui rendre son imperfection d'être humain. Et non pas, c'est pas parce qu'il a un handicap qu'il est imparfait, c'est parce que c'est un être humain qu'il est imparfait. Et ça, c'est juste ça. Et ça permet de se rappeler qu'on est tous, on a tous exactement ça. C'est la même chose. Il se trouve que elle, bah, c'est plus là-dedans que ça se passe. C'est tout, quoi. Et l'amusement, c'est les approximations et comment un être humain essaye de s'en sortir dans la forêt, quoi, en fait. Comment il s'adapte.
Ouais. Et c'est vrai que, bon, elle nous explique les choses, même avec tendresse. On est conquis, on ressort de là, on est bien, on a partagé quelque chose.
C'est ça l'idée, ouais. C'est qu'il y a un partage.
Voilà, c'est ça.
Partage de son histoire, qu'on partage son histoire. Maintenant, on la connaît.
On la connaît, on a vu une amie, quoi, pratiquement.
C'est exactement ça, les indications de jeu. J'ai dit, c'est attention, on devient tes copains. Au début, on ne sait pas qui tu es. Ouais. Et très vite... Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, quand elle parle des gens, ce sont les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la salle.
Ouais.
Et nous, on est en connivence. Et donc, il y a nous, avec elle, et les autres.
Bah, vous voyez, ça marche bien. Parce qu'après,
c'est ça l'idée.
On n'a qu'une envie, c'est aller lui dire au revoir, la
salle dans
vos bras, et puis partir.
Nous, on est avec toi, c'est ça l'idée.
Exactement.
On est ensemble et contre le monde un peu. Mm. C'est-à-dire que tout à coup... C'est ça l'idée du travail, absolument. C'était ça les indications dans les dernières fois. Ouais. C'était vraiment attention, t'es avec nous, t'es jamais en dehors. Il n'y a pas le fameux quatrième mur, non. Souvent d'ailleurs, il est cassé, puisqu'il y a de la magie, puisqu'elle parle. On allume la salle, parce que bon, de temps en temps, on parle à tout le monde. Il faut tout à coup, sans arrêt, enlever le ôter le fameux quatrième mur et le traverser régulièrement pour bien rappeler que nous on est ensemble dans cette salle et qu'il y a les autres dehors. Et les autres, quand elle parle des autres, ce sont pas ceux qui sont dans la salle. Ils ne sont pas concernés. Eux, ils font partie de l'univers. Ils sont dans la petite dans la forêt magique.
Voilà. Alors pour moi, c'était cette scénographie un peu comme le capitonnage de ce qu'elle pouvait pas entendre en fait dans son conduit auditif.
On est dans tout ça, dans le capiton. Ouais. On est dans quelque chose d'un peu fermé et puis qui s'ouvre en fait d'une certaine manière. Et puis de toute façon, ça s'ouvre parce que finalement, il y a des elfes derrière, des personnages imaginaires. Il y a tout
ça fleurit.
Ça fleurit. Oh, bah oui, il y a le printemps. Hein. Oui. Le printemps arrive.
Ouais. Et alors pourquoi Charlie Chaplin au début?
Ah bah, c'est parce que simplement il y a le Jabberwocky, enfin les mots sans mots, c'est-à-dire que c'est pas très grave, on comprend le sens.
Ouais.
On n'a pas besoin des mots pour comprendre, on comprend en le regardant, on sait de quoi il parle. Il y a le monsieur, le méchant, et on n'a pas les mots. Ouais. C'est pas très grave. Et en plus, ce qui était amusant, c'est que c'est un film muet où le seul moment où on parle, c'est pas de la parole puisqu'il a perdu les mots. Et donc il s'adapte.
Oui.
Et ce qu'il fait est précisément amusant parce qu'il est obligé de s'adapter à une situation épouvantable et il en fait quelque chose de léger, de joyeux, de drôle. Et en fait, tout le monde comprend. On n'a pas besoin toujours des mots. On comprend la situation.
Donc finalement, la mise en scène, elle s'est imposée pour vous de fait, quoi. Vous avez vu Charlie Chaplin, vous avez vu...
Très tôt, j'ai vu Chaplin.
Ouais.
Mais je vois souvent Chaplin. Hein. J'aime beaucoup et ce... Dans ce souvenir des belles choses, le générique de début, c'est Je cherche après Titi, non ?
Ah, je me souviens pas. Oui.
Et on cherche toujours après Titi.
Ouais,
et le générique de début, c'est Je cherche après Titi, chanté par Yves Montand. Vous voyez, on est toujours. En fait, c'est toujours la même histoire. Je raconte toujours la même chose. Hein. Je pourrais pas m'en sortir.
Et alors, inversement, qu'est-ce que vous a apporté Isabelle Fouchard ?
Eh bien, ce texte, et puis cette connaissance que je n'avais pas, comme tous les gens qui viennent et qui apprennent.
On apprend plein de choses.
On apprend quelque chose sur elle et sur nous. Mmh. On apprend quelque chose. Moi, je ne savais pas. J'ai appris énormément de choses. Des choses je ne savais pas sur l'histoire du son. Je n'envisageais pas tout le temps ça. Je n'imaginais pas à quel point les oreilles qui entendent à peu près bien sont performantes et merveilleuses, comment elles ont de la profondeur, comment les appareils auditifs enlèvent cette profondeur et pour ne pas isoler les sons qui ont de l'intérêt pour nous, mais mettre tous les sons au même niveau. Donc, on rappelle la perfection humaine, l'outil merveilleux qu'on a, et puis parfois cet outil ne marche pas. Et je trouve que rien n'est, il n'y a pas d'évidence, c'est pas acquis. Ouais. Et donc ça, je trouve que ça m'a apporté énormément de choses.
Et sur l'acceptation finale, parce que oui. Elle n'entend pas Capucine.
Ben oui.
Et qu'elle n'entendra jamais, non. Elle l'accepte.
Bien sûr.
Et là, c'est.
Mais bon, l'idée, c'est d'être.
Elle n'a pas le choix.
Non.
Mais tout d'un coup, c'est comme si elle avait grandi quelque part à un moment donné. Et nous, avec.
Ben bien sûr. Ouais. Ben oui. C'est pour ça que je lui dis, attends, quand il y a le dernier truc niveau 4, les gens sont tout à fait contents quand elle sourit. Ouais. On dit, c'est bon, elle l'entend. Non, elle ne l'entend pas, mais elle sourit parce que c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. C'est pas très grave. C'est pas si grave. Ouais. C'est pour ça que c'est bien, je l'entends pas, elle l'entend pas, elle l'entendra pas. Mais l'idée n'est pas de faire absolument tout, l'idée c'est c'est quand même, je veux pas donner de psychologie à deux balles, mais l'idée c'est pas de se contenter de ce qu'on a, sûrement pas, c'est d'aller à fond et de s'adapter et de truander quand ça va pas. Il faut s'adapter. C'est l'histoire de l'adaptation de l'être humain que je trouve extraordinaire. Ouais. C'est merveilleux. C'est ça qui est magique. C'est ça, c'est la magie. Ouais. C'est magique. Parce que tout ça, est, finalement, marche très bien. On s'organise.
Alors, quittons un peu Isabelle, que je vais interviewer, parce que j'en ai vraiment envie. Quelles sont les mises en scène qui vous ont le plus marqué et pourquoi ?
En théâtre, oui. Alors, L'hiver sous la table, parce que c'était la première d'une part, parce que c'était Topor, et parce que la troupe était extraordinaire et que ça a été quelque chose de magnifique. D'ailleurs, on se demande si on ne va pas le reprendre, si on ne peut pas essayer de le reprendre. Tout le monde veut le reprendre, Isabelle Carré, et puis non, enfin voilà. Et ça a été un moment extraordinaire et j'aime cette pièce profondément. J'adore cette pièce. Elle est spéciale. J'ai beaucoup. Et c'était pas évident. C'était pas du tout évident. Mmh. Les gens me regardaient un peu de travers en me disant qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette pièce. Ensuite, une pièce qui raconte beaucoup de choses. Topor a été un enfant caché. Et quand on est caché sous la table aussi. Mmh. Et il avait peur du monde extérieur, donc il est sous la table, et puis il y a le monde extérieur, et il y a ce violoniste qui vient de l'Est, qui est son cousin, qui habite aussi sous la table, et puis comme le type est cordonnier, ben, il regarde les jambes de la fille, il aime bien ses chaussures, enfin bon, il y a quelque chose de poétique et de terrible, et de en même temps trash parce que c'est Topor, et ça j'adore qu'il puisse mélanger ce qu'il veut, quoi, il est libre.
Ouais.
Et ça c'est merveilleux. Ensuite, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup aimé faire travailler sur des gens d'après Depardon, ça m'a énormément plu parce que ça a été un travail de fou. Bon, je jouais aussi dedans, donc ça a été très compliqué avec Laurent Lafitte qu'on connaissait pas du tout, même s'il avait fait des choses quand même au théâtre, il avait fait quand même plein de trucs avec Gilles Bourdet, avec plusieurs metteurs en scène. On savait pas qui c'était. Tout le monde me disait, mais c'est qui ce mec, il est extraordinaire. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin. Après, il a fait son one man qui était dément. Et de toute façon, ça serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Si ce n'était pas avec des gens, ça aurait été avec autre chose. Mais, et ça a été un travail exceptionnel de travailler sur le documentaire. Et je continue d'ailleurs, je vais retravailler, je vais refaire un truc comme ça. Et c'était un travail très à part. On a travaillé comme des chiens, parce que c'est un travail très dur, très ardu, très très compliqué. Cela dit, j'ai fait un travail comme ça avec Isabelle. À un moment donné, sur les fascias, elle a tout un truc sur les fascias. Je lui ai dit, bon, tu vas... Parce qu'il y a beaucoup de textes qui n'y étaient pas à l'origine. Et j'ai rajouté beaucoup, beaucoup de choses. Et je lui ai demandé de dire les fascias en enregistrant, comme avec votre petit appareil. Et on l'a enregistré. Elle m'a raconté comme ça. C'est une impro, mais expliquer ce que c'était que les fascias. Et après, j'ai tout écrit ce qu'elle avait dit. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas faire exactement ce que tu as dit, ce que tu m'as raconté. Et donc, c'est un texte écrit, on dirait une impro, mais c'est un texte qu'elle a appris et avec toutes les erreurs. J'avais envie qu'on travaille là-dessus. Donc après, il y avait des gens qui avaient vraiment été un truc que j'ai adoré. Qui était un truc même d'acteur à faire, qui était assez impressionnant. Et en mise en scène, la compagnie des spectres qui a été extrêmement compliquée parce que j'étais seule, j'ai fait la mise en scène et je jouais et j'ai pas vraiment eu de regard extérieur, quoi. Personne n'est venu me mettre en scène, et ça, c'était... Ouais, mais non, j'aurais bien... Oui, sans... Ouais, là, je referais jamais un truc pareil.
Bon, regard,
ah non, j'en ferais jamais. Bien. J'ai mis 70 représentations, je pense, à me caler.
Mmh. Ah oui.
Ouais, ça devient... Maintenant, c'est bien. Ça fait 5 ans, je continue l'année prochaine.
Scénographie tournante, hein.
Oui, voilà. Encore aussi un décor de Jean-Marc Stélé, ouais. comme là, comme le système Ribadier, qui est un décor de Stélé, ouais. Qui tourne aussi, qui est complètement de guingois, qui est de travers et bouleversant. C'est d'ailleurs, c'est Simon Stélé, c'est son fils qui a fait le décor de Journal de ma nouvelle oreille. Mais moi, j'aime ça, cette espèce de choses qui ne tient pas debout, qui est un peu de travers, qui est... Donc, la compagnie des spectres, c'est le spectacle que je...
Et là, moi, j'ai un souvenir extraordinaire, c'est cette danse.
Ah ouais, avec Pétain. Pétain. Alors ça, c'est marrant, quand j'ai lu le bouquin, c'est la première image que j'ai... Une des premières images que j'ai eues et dont j'ai parlé à Jean-Marc Stélé. Et je lui dis, moi, j'adorerais faire une danse porno avec Pétain. Et il m'a dit, oh, ouais, faut absolument faire ça. Et je me suis dit, oui, il ne faut pas que j'abandonne ça. C'était vraiment une des premières idées que j'ai eues. Il me dit, oh, mais j'adore. Mmh. Et c'est lui qui a eu l'idée de le faire tout petit. Alors qu'il était grand, mais c'est très drôle de faire un petit Pétain. Et la danse porno, bah finalement c'est la collaboration, hein. C'est ça une danse porno. C'est la danse porno, c'est la collaboration, c'est parfait. Donc je fais une danse porno avec Pétain. C'est la France qui danse avec Pétain. Hein.
Oui,
danse, c'est pornographique, hein. On est là-dedans. Donc qu'est-ce que je me suis éclatée à faire ça? Je me suis éclatée et je vais continuer parce que je pense que ce texte est nécessaire.
Ouais.
On doit encore l'entendre et je commence à être plus souple dans mon travail, dans mon jeu, ouais, être beaucoup plus incarné, tranquille. Mais j'ai mis trop de temps parce que j'ai pas eu de metteur en scène.
Et là, vous allez avoir quelqu'un, un regard extérieur?
Non, bah non, là je le joue depuis 5 ans, ça va. Maintenant, même j'ai une assistante qui peut, qui peut m'aider. Mais même Simon, c'est Simon aussi qui est Stélé qui est sur le plateau, où lui il connaît très bien, il peut me dire, ouais, là aujourd'hui c'était. Ça va, ils ont des écoutes hyper fines, hyper délicates, et c'est vraiment c'est un truc un peu spécial, quoi. Et puis bon, Ribadier, je pense que ça a été pour moi un grand moment aussi de mise en scène, parce que je me suis lâchée complètement sur Feydeau avec des acteurs merveilleux, mais et même ceux de la reprise là, ils sont incroyables, c'est des comédiens, j'ai beaucoup de chance, je travaille avec des comédiens dingues. Laurent Lafitte, Nicolas Lormeau, c'est ceux du début, Martine Chevalier, Christian Blanc, mais il y a les deux jeunes là, Jérémy Lopez et Anna Servinka, qui sont quand même, ils ont repris ça, mais c'est du délire.
Ouais.
Le type, c'est dingue, ils sont d'une précision diabolique, et Feydeau, c'est pas si. C'est fou, et en même temps. Mais il était fou, il était surréaliste, déjà.
Ouais.
Il était un peu avant, mais il était quand même surréaliste déjà. Il n'est pas du tout dans le bon mot bourgeois. Je trouve que c'est le contraire.
Et qu'est-ce qui vous intéressait chez Feydeau plutôt? C'était l'homme, ce qui justement...
La liberté. Sa liberté.
La liberté, ouais. Ouais.
Il est libre et il est anticonventionnel complètement. Et il fait des bras d'honneur permanents à la bourgeoisie. Sans arrêt. Et il est très libre. Très, très, très libre. Et c'est Lafitte qui me disait ça, que c'était une de ses pièces préférées, une de ses pièces dont elle était plus fière, Ribadier. Elle est extrêmement bien construite, c'est une pièce admirable en fait. Elle est plus fine que les autres encore.
Ouais, le scénario est complètement fou.
Oui, c'est fou, c'est barjot.
C'est complètement...
Il est vraiment allumé, quoi. Alors, il fallait faire attention de ne pas,
de pas être allumé trop.
Oui, c'est ça, alors il fallait doser, mais on n'a pas envie d'en faire... Mais alors, il fallait toujours doser pour l'histoire.
Oui.
Faire bien gaffe.
La tentation.
Mais c'est super, mais tout est bien. Tout est bien.
Et alors, quand j'ai regardé votre parcours théâtral, la balance penche plutôt sur la comédienne que sur la metteur en scène.
Ah ouais.
Ouais.
Oui, c'est trouvé comme ça. Mais non, depuis que j'ai commencé à mettre en scène, j'ai plus mis en scène que joué. J'ai plus mis en scène que joué.
Oui.
Ah oui, sauf que j'ai joué dans mes mises en scène.
Oui.
Donc là, bon, voilà. Mais sinon, là, en pièce de théâtre, j'avais joué juste avec Yasmine Areza récemment. C'est tout. J'ai pas été. Mais d'ailleurs, c'est très agréable de jouer. Bon, il se trouve que Yasmina, c'était aussi une très belle rencontre et un grand metteur en scène, ce que j'ignorais. Je savais pas que c'était un metteur en scène aussi incroyable. Je savais pas du tout.
Elle a beaucoup de talent.
Beaucoup de talent. Puis c'est une femme brillante, et puis, mais brillante dans le bon sens. Quoi. Elle est libre aussi. Elle est libre. Et j'adore. Elle est formidable. Mais moi, je me suis régalée avec elle comme metteur en scène. Mais il y a des acteurs avec qui j'adorerais jouer.
Ouais.
Ah ouais. Et des comédiens, un mec comme Michel Escaut, ou Isabelle Huppert, ou il y a quelques personnes comme ça avec qui je rêverais de jouer. Ouais. Je rêverais de jouer. Micha, je Micha, trouve ouais. tellement merveilleux.
Dans Ivanov, extraordinaire.
Mais la pièce est démente. Ouais.
Donc là, donc sur votre actualité en ce moment, c'est donc le système Ribadier.
Oui.
Et puis bientôt la Compagnie des Spectres, une reprise.
Je reprends la Compagnie ouais. des Spectres et surtout, je ne sais pas quand ça va passer, mais lundi 22 juin, n'oubliez pas d'annoncer ce spectacle incroyable de Cabaret Doré au Théâtre de l'Atelier avec plein de chanteurs et avec mon papa qui a 94 ans bientôt. C'est bon. C'est à 20h30, il faut absolument y aller, il faut vraiment que les gens y aillent.
On fera l'annonce.
Ah, il faut vraiment le dire, parce qu'il faut que les gens y aillent. C'est tellement... Les gens qui sortent de là disent, mais comment c'est ce texte? C'est pas mon papa, c'est un monsieur qui a quand même écrit Tirer la fronde, qui a été gérant pendant 2 ans du caveau de la Huchette quand il avait 22 ans, 23 ans, juste après-guerre, qui a été à l'Alhambra et à la Rose Rouge en cabaret. C'est quand même un sacré monsieur, quoi.
Bah écoutez, on fera l'annonce de tout ça. Merci beaucoup
Merci.
Pour votre gentillesse.